Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Parole de Pilote. C'est le podcast qui permet de raconter l'expérience et les vols records de certains pilotes de planeurs. Pour l'épisode numéro 1, on se retrouve avec Baptiste Innocent, qui le 25 avril dernier a réalisé un vol record traversant les Alpes pour rejoindre la Corse puis la Sardaigne.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Lucie.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je m'appelle Baptiste Innocent, j'ai 38 ans, je suis né à Marseille. Je fais du planeur depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à Fayence et aujourd'hui je suis pilote de ligne chez Air France sur Boeing 787 et en planeur je vole principalement à Fayence.
Ok, et du coup comment t'es venu l'idée de faire du planeur, c'était à Fayence ?
Alors c'était une maison de vacances, plutôt un terrain de vacances sur lequel on venait passer un mois tous les mois d'août depuis que je suis à peu près tout petit. Mes grands-parents qui habitaient à Mandelieu à côté avaient acheté ce terrain-là et mes parents nous emmenaient avec mes frères donc faire du camping un peu sur ce terrain qui était en bordure de l'aérodrome et donc je regardais les avions et les planeurs à longueur de journée. Et m'est venu un peu la passion des avions et des planeurs. Et puis quand j'ai eu l'âge de faire du baptême de l'air, mon grand-père qui lui était un passionné d'aéronautique, qui n'a jamais pu voler lui-même, mais qui était vraiment passionné, a pu me permettre de faire un baptême de l'air. J'ai beaucoup aimé. Et puis à 14 ans, il m'a dit, si tu veux, on peut t'inscrire pour prendre des cours de vol à voile. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai accroché assez rapidement. Et c'est comme ça que m'est venu le virus du planeur et du d'aviation en général.
Ok, et donc tu fais du planeur depuis longtemps, mais comment t'es venue l'idée de faire du vol un peu plus de distance, de record ?
Alors ça prend, c'est une continuité, on va dire, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Au début je volais au Fayence, un petit peu dans les Alpes, mais pas très loin. Et puis ensuite, au bout de quand même une petite dizaine d'années, non un peu moins, je dirais 6-7 ans, je suis allé à faire mes études à Toulouse, mes études d'ingénieur aéronautique. Et là, je suis passé instructeur planeur grâce à des gens dans le sud-ouest qui ont permis à d'autres et moi de pouvoir passer instructeur. En faisant de l'instruction, j'ai voulu encore progresser, faire un petit peu de compétition. Là, je me suis mis à la compétition nationale et puis j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France plusieurs années, faire de la compétition internationale. Et puis ça m'a pris un temps, une petite dizaine d'années de nouveau. Et puis j'ai voulu faire autre chose, mais je savais pas vraiment quoi dans le planeur. Et puis un jour, un chef pilote de Fayence, c'était Régis, m'a appelé pour me dire, écoute Baptiste, est-ce que ça te dirait de venir faire des stages grand vol avec la SH25 du club de Fayence ? Ça, c'était en 2012, il y a 10 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Écoute, après tout, c'est une façon de découvrir le vol à voile. Hein. Après l'instruction, après la compétition, faire de la perfo, emmener des gens en perfo dans la montagne. Et l'idée m'a plu assez rapidement, et puis de fil en aiguille, les vols sont devenus de plus en plus longs, de plus en plus grands, et puis ça fait 10 ans que je fais ce genre de stage à Fayence, maintenant avec mon planeur également, donc en biplace et en monoplace, et petit à petit avec la connaissance, avec l'expérience, j'arrive à faire des vols plus longs, plus grands, et puis les records, c'était une suite logique de ce genre de vol, voilà.
Ok, et donc le 25 avril dernier, t'as fait un aller-retour en Sardaigne.
Ouais.
Est-ce que tu peux du coup nous raconter ton vol un peu plus en détail ?
Oui, alors, c'est un vol dans la continuité des vols que j'ai fait avec Gilles, mon copain, et moi. Donc, il y a 2 ans, 2021, où on se souvient, le 25 mai, pour la première fois avec le STEM, on avait réussi à aller en Corse et en revenir par l'Italie. Voilà, on était revenu à Fayence. La même année, au mois d'août, donc un mois et demi plus tard, début août, je l'avais fait avec mon planeur, mon ASH31, où j'avais bouclé un triangle encore plus grand, c'est-à-dire que j'étais allé à Figari, et puis j'étais rentré par l'Italie, et j'avais étendu un peu vers l'ouest, à Aubenasant, pour rentrer à Fayence, pour un double record de France et double record d'Europe de distance sur triangle. Mmh. Et l'année dernière, il n'y a pas eu de situation du tout pour faire ce genre de vol. Donc ben, quand il n'y a pas de situation, qu'est-ce qu'on fait? On cogite, on réfléchit et on se dit, ben, bon, pour la prochaine fois, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire autre chose? Et au sud de la Corse, ben, y a la Sardaigne. Alors la Sardaigne, c'est pas aussi montagneux que la Corse, mais c'est pas plat non plus. Donc il y a quand même des reliefs. Et en regardant l'orientation de ces reliefs et les vents qu'il peut y avoir sur la Sardaigne, on s'est dit que ça devait pouvoir onduler certains jours. Surtout qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, les images satellites et tout ça, on peut remonter dans les archives météo sur certaines journées où on sait qu'il y a eu du vent et on peut regarder effectivement s'il y avait des ressauts marqués en Sardaigne. Et c'était le cas. Et donc on s'est dit, bah tiens, un jour où c'est bon, on tenterait à la Sardaigne. Et c'est ce qui s'est passé le 25 mars dernier, donc un mois avant le vol du 25 avril, où avec Gilles et le STEM, nous sommes partis vers la Corse et vers la Sardaigne, et on a trouvé de quoi prendre de l'onde en Sardaigne, et même de quoi revenir à Figari, alors ce qui n'était pas chose facile, hein, parce que revenir avec le vent un petit peu de face... même si la distance n'est pas excessivement longue, c'est toujours un peu compliqué, et ça a réussi. Alors on était allé jusqu'en Italie, mais comme c'était le 25 mars et que c'était encore un peu tôt dans la saison, la convection n'était pas vraiment encore bien établie dans la plaine du Pô, donc on a dû remettre le moteur pour rentrer à Fayence. Mmh. Et ça m'a fait cogiter, donc je me suis dit, bah tiens, super, donc la prochaine fois que ce temps se présente une situation identique, bah, on peut boucler un triangle en étendant à la Sardaigne. Et ben pas plus tard qu'un mois plus tard, donc le 25 avril, se présente une situation comme celle-là. Donc avec un vent prévu du 300 degrés, assez fort par contre en altitude avec plus de 100-110 km/h, mais bien constant sur la Corse, bien constant sur la Sardaigne, et puis l'Italie sous une espèce de pas vraiment de confluence, quand même un peu instable, avec des CB prévus et tout, mais bon quand même laissant une ouverture près de la côte. Alors je me suis dit, bon, bah, autant quand même le tenter, parce que si jamais je me pose en Italie, c'est pas très grave. De toute façon, j'avais encore quelques jours après pour pouvoir rentrer, hein, bien sûr. Quand on est en Italie, je veux dire, c'est pas se poser en Italie, c'est pas comme se poser en Corse ou se poser en Sardaigne. C'est beaucoup plus compliqué si jamais on peut pas rentrer par les airs. Le dépannage est plus compliqué. L'Italie, ça va. Donc comme j'étais sûr de pouvoir rentrer vers l'Italie, je me suis dit, allez, je tente, c'est parti. Donc... 25 avril, 14h30 de vol possible. Les semaines précédentes, j'avais fait quelques beaux vols dans la confluence italienne du côté de Turin et Cuneo et tout ça. Donc je savais que la plaine du Pô était déjà instable dans la saison. Donc qu'il y avait potentiellement de quoi revenir. Alors le plus important, bien sûr, c'est la préparation pour ce vol-là. Contrôle aérien, espace aérien... équipement, ça c'est important, ça prend une demi-journée on va dire, hein, entre l'activation du réseau de contrôleur aérien, plus la préparation du planeur, plus la préparation de l'équipement et tout ça. Bon, ça prend du temps. Donc toujours est-il que le lendemain matin, le mardi matin, donc 6h du matin, me voilà prêt pour le décollage. Voilà, donc je décolle, je prends l'onde rapidement sur Fayence, elle était assez bonne. Quand c'est le printemps comme ça, le matin très tôt, il n'y a pas de convection. Tout est calme, le vent est bien établi, on prend l'onde tout de suite. On prend l'onde tout de suite, je monte à 6000 mètres. Donc ça c'est bien, puisque le mois de mars précédent, on n'avait pas pu monter au-delà de 5200 mètres, 5300 mètres avec Gilles. Donc là je monte à 6000 mètres au-dessus de Fayence, et j'obtiens la clairance de traversée, donc par le contrôle aérien de Marseille, pour pouvoir aller vers la Corse. Alors... quand on regarde l'image de la Corse, il y a Calvi, au nord et Bastia à l'est. Et entre Calvi et Bastia, il y a le Cap Corse. Le Cap Corse, ça fait trois fois qu'on essaye, ça fait trois fois que ça marche en onde, c'est très bon, et qu'on y arrive souvent à une altitude largement suffisante pour pouvoir prendre le ressaut derrière le Cap Corse. Sauf que ensuite, pour redescendre au sud de la Corse, on est encore obligé de sauter une plaine pour arriver vers Corté. Donc, ce qui fait que ça fait un petit détour et on perdait souvent un petit peu de temps sur ce trajet-là. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas qu'on pourrait tenter la crête qui est à l'ouest du Cap Corse, qui s'appelle le Mont Azo, à l'ouest du Cap Corse, entre Calvi et le Cap Corse. Donc, il y a cette crête qui mène directement à Corté, qui est bien orientée, qui est orientée nord-sud. En amont de ce relief-là, il n'y a pas d'autres gros reliefs qui pourraient empêcher le vent de venir taper dessus. Donc, elle doit être alimentée en pente. Et surtout, la distance de faïence à cette montagne est légèrement plus courte que la distance du faïence au Cap Corse. Donc ça, c'était la première tentative de cette route-là. Et le vent étant super fort depuis faïence et étant monté à 6000 mètres, je me suis dit que là, c'était l'occasion rêvée pour pouvoir tenter cette nouvelle route. Je risquais pas d'arriver trop bas. Et donc, je traverse. Voilà, donc une petite heure de traversée, même moins puisque le vent était très fort, donc ça, avec 300 km/h de vitesse sol, ça a pris 45 minutes, hein, même pas le temps de se reposer un peu. mais bon, voilà, c'était joli. Alors c'était très nébuleux sur la Corse, hein, le front venait de s'évacuer, il y avait encore quelques nébulosités. Bon, les reliefs n'étaient pas accrochés, on voyait quand même quelques rotors au loin, donc c'était plutôt bon signe. Donc j'arrive sur cette fameuse petite crête qui culmine à 1800 mètres, je crois. Et j'arrive largement assez haut, j'arrive à presque 3000 mètres. Donc j'étais vraiment, vraiment large. Et effectivement, c'était un super chemin parce que de cette crête jusqu'à Corté, ben, je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas perdu d'altitude. Corté, je suis arrivé à 3000 mètres, mais c'était pas fameux le ressaut. Mais par contre, un peu plus loin, vers Ghisonaccia, donc 50 km plus au sud, ça... Les nuages indiquaient une très belle onde. Et donc, bah pareil, en cheminant, sans perdre beaucoup d'altitude, j'arrive à ces nuages-là où je prends un excellent ressaut, plus de 5 mètres par seconde, jusqu'à 6000 mètres, sans m'arrêter, j'arrive à Figari. Donc, chemin validé, beaucoup plus rapide, beaucoup plus court en distance et beaucoup plus rapide en temps. Donc, c'est très bien. J'arrive à Figari, je fais 6000 mètres à Figari, et là, je regarde vers la Sardaigne. Et la Sardaigne, ben, je m'aperçois que c'est quand même très nébuleux. Et là, alors petit dilemme. Il est 8h30 du matin, c'est quand même super tôt. Beaucoup trop tôt pour abandonner le circuit, repartir au nord et traverser vers l'Italie, parce que là, je serais arrivé en Italie à 10h du matin. Et à 10h du matin, il n'y aura pas encore de convection qui était prévue, c'est sûr que je restais là-bas. Donc, ou faire encore 2-3 allers-retours en Corse pour patienter vers l'Italie, ou partir vers la Sardaigne. Alors c'était très nébuleux, mais on devinait quand même quelque chose qui pouvait ressembler à des systèmes ondulatoires. Surtout que le vent était présent, donc il n'y a pas de raison que ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, allons-y. Au pire, de toute façon, j'ai le temps de perdre du temps en Sardaigne pour pouvoir remonter, avant de pouvoir remonter en Corse et de sauter en Italie à la bonne heure. J'ai visé l'Italie aux environs de 14h, 14h30, le temps que le système frontal se décale un peu et que ça me laisse la bonne convection pour rentrer. Voilà, j'avais tablé sur cette heure-là, arrivé en Italie. Donc ça me laissait quand même presque 4 heures entre Figari, la Sardaigne et retour Figari pour explorer la Sardaigne. Alors j'avais mis un point de virage en Sardaigne, mi-Sardaigne, un village dont je me souviens plus. On m'excusera. Et c'était un des points de virage qu'on avait tourné avec Gilles le mois précédent en SFEM. Et donc je m'engage sur la Sardaigne avec un vent très fort, mais bon, le vent arrière pour descendre sur la Sardaigne, pas de problème. J'arrive sur ce système ondulatoire qui marche, qui fonctionnait relativement bien, c'était bon. Donc je tourne mon point de virage, mais il était 9h du matin, c'était encore beaucoup trop tôt pour revenir sur la Corse. Et comme je voyais sur la côte est de la Sardaigne encore des systèmes qui ressemblaient à des systèmes ondulatoires, je me suis dit, allez, allons explorer l'est et le sud-est, l'est de la Sardaigne. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai sauté 3-4 ressauts pour arriver à l'est de la Sardaigne, au nord d'une ville et d'un terrain qui s'appelle Tortoli, voilà, où les montagnes s'orientent nord-sud. Et donc j'arrive là-bas, dans ce système-là, qui était plutôt pas mauvais, mais il fallait qu'encore je reparte vers le nord avec le vent de face. Donc là, ça a été la partie un petit peu difficile du vol, où entre Tortoli et le dernier ressaut que j'ai pris à Olbia, ça a été une succession de 4 ressauts avec des taux de montée moyens de 1 mètre par seconde et 120 km/h de vent de face. Donc là, ça a été vraiment, vraiment difficile, autant techniquement que même psychologiquement, c'était super dur. Là, tu te dis, mais j'avance pas, j'y arrive pas, je quitte le ressaut. Et puis en fait, non, tu peux pas quitter le ressaut parce que c'est déjà, c'est très nébuleux. Donc si tu quittes le ressaut trop tôt avec le vent de face, tu tires des finesses de 10 parfois, de 10. Donc tu risques de rentrer dans la couche, voire tomber dans sous-ondulatoire, ce qui est assez mauvais. Et il fallait être patient et que je réussisse à monter suffisamment haut sur chaque ressaut pour pouvoir basculer sur le ressaut suivant. Bon, tout ça, ça m'a pris 2 heures pour faire 100 km à peu près. Donc ça a été très long. Heureusement, le contrôle aérien de Rome et de Olbia a été extrêmement coopératif. Vraiment super sympa. Ils m'ont autorisé à faire un peu ce que je voulais. Le dernier ressaut, on verra sur la carte, je suis quasiment vertical de l'aéroport d'Olbia, voire un peu à l'ouest de l'aéroport d'Olbia, c'est-à-dire qu'en plein dans les trajectoires de décollage et de remise de gaz de l'aéroport. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, ça, c'est vraiment, vraiment aucun problème. Donc, petit à petit, dernier ressaut au-dessus de l'aéroport d'Olbia, j'arrive à refaire 6000 mètres. Et là, c'est super. Et donc 6000 mètres, ça me laissait Figari en finesse à peu près 12-13 avec 110 km de vent de face. Mais bon, je me suis dit que ça passait quand même parce que le vent faiblit avec en descendant. Et donc, au fur et à mesure de la descente, je tirerais des meilleures finesses. Entre temps, il y a eu la visite de Thomas Puteau, qui était lui parti de Grenoble. On s'était appelé la veille. Et quand lui est arrivé en Corse, j'étais déjà en Sardaigne. Il m'a demandé si la Sardaigne c'était bon. Je lui ai dit oui, mais pas trop loin. Et donc lui, il s'est arrêté dans ce ressaut-là à Olbia, de sorte qu'on s'est retrouvé sur la Corse pour pouvoir finir le vol ensemble. Ça, c'était vraiment une super expérience. Donc voilà. Donc sur Olbia, je monte à 6000 mètres et je mets le cap sur Figari. J'arrive à Figari, pas de problème, 2500 mètres, dans un superbe ressaut, un superbe trou de fun. Donc c'était très nébuleux encore, c'était encore plus nébuleux qu'à l'aller la Corse, mais les trous de fun étaient présents, heureusement. Le système ondulatoire est resté bien, bien présent tout au long de cette demi-journée. Donc j'arrive à Figari, je remonte dans le ressaut, c'est super, jusqu'à Ghisonaccia, et je m'arrête quasiment pas jusqu'au Cap Corse cette fois-ci. Donc là, j'arrive au Cap Corse, on arrive au Cap Corse ensemble avec Thomas vers 13h30 ou 14h, quelque chose comme ça, on regardera les heures en détail. Et ce qu'on voyait sur l'Italie, c'était pas très beau, parce qu'on voyait toute une ligne de cumulonimbus sur une des lignes de crête qui est entre Pise et Bologne. Alors entre Pise et Bologne, il y a deux lignes de crête principales, il y a la ligne de crête qui est côtière, qui est à 10 km de la côte. Ça passe par Massa, les marbres de Carrare, ensuite la Spezia, puis ça arrive à Gênes. Et puis, tu as une deuxième ligne de crête, celle qu'on avait prise avec Gilles le mois précédent, dans la vallée de Barga, ça s'appelle, où tu as des reliefs qui sont un peu plus hauts, ça culmine à 2000. Et passé ces reliefs-là, tu as quelques petits reliefs où, avec l'aéroport de Pavulo. Et donc, en général, c'est là qu'est la confluence. Sauf que là, ce jour-là, c'était prévu orageux, donc j'avais penser prendre la deuxième ligne de crête comme on avait fait avec Gilles. Sauf que, en regardant l'image satellite, parce que heureusement sur la Corse, on arrive à avoir un peu de réseau, j'arrive à prendre une image satellite et je vois que toute cette deuxième ligne de crête est également sous la pluie. Et qu'au soleil, et la première ligne de crête est ensoleillée. Alors, ça laisse un espoir, oui et non, parce que la première ligne de crête est ensoleillée, c'est très bien, ça peut donner de la convection, mais comme c'est sous l'influence de la mer et de la brise de mer qui arrive de Pise et plutôt assez fort, tu peux avoir du marin qui rentre et des nuages qui sont somme toute assez bas, genre 500 mètres sol, 600 mètres sol. Et là, c'est difficilement exploitable. C'est ce que j'ai vu les 3 fois où on était passé, c'était un peu ça. La première ligne de crête n'était pas vraiment exploitable en convection. La deuxième ligne de crête, oui, comme c'est plus sec, la masse d'air s'assèche au passage de la première ligne de crête. La deuxième ligne de crête est convective. Donc là, on entame la traversée de la Corse vers l'Italie, vers Pise et au nord de Pise, pas super confiant, en se disant que bon, ben, il y a le terrain de Massa, il y a le terrain à la Spezia, mais que ben, la première ligne de crête, si vraiment c'est trop bas, eh ben, on aurait du mal à remonter, et surtout qu'après, il faut rentrer dans les montagnes, dans les Apennins qui sont au sud de. Enfin, qui sont à l'est de Gênes, où là, les crêtes sont quand même assez hautes et les vallées sont assez profondes, donc c'est un peu délicat si c'est trop bas. Bon, on traverse avec une composante de vent de face, parce que le vent est du 3-10 pour 110-120 km/h. C'est quand même difficile encore à cette traversée-là, alors que les trois fois précédentes, c'était quand même plus facile, avec une composante arrière, sauf que là, la composante est de face. Donc, de toute façon, on arriverait à la première ligne de crête déjà pas super haut. Bon, on y va. On arrive travers Pise, contrôle de Pise, pas de problème, on peut rentrer dans leurs espaces et repartir au nord, ça se passe bien. On arrive sur la côte vers 1700-1800 mètres et on est bien au-dessus des nuages. Donc on longe ces nuages, on longe les marbres de Carrare qui sont accrochés à mi-pente, hein, donc ça c'est plutôt pas bon signe. On passe le terrain de Massa et puis on continue un peu au nord. Et puis finalement, on passe sous la couche. À 1300 mètres, donc ce qui est quand même beaucoup mieux que espéré, et surtout que 1300 mètres, ben ce sont des cumulus et c'est convectif. Et là, l'espoir renaît. Alors l'espoir renaît pour pas longtemps parce que on se dit qu'à 1300 mètres, de toute façon, on pourrait pas rentrer. Ce serait difficile d'arriver jusqu'à la plaine du Pô à 1300 mètres, hein, parce que là, dans les vallées, c'est quand même un peu compliqué. Mais bon, on a bon espoir que l'influence de la brise de mer se calme un peu à cet endroit-là et qu'on puisse rejoindre des plafonds plus hauts, un peu plus loin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait 50-60 km comme ça, en passant à l'est de la Spezia, à l'est de Gênes. Et au bout de 60 km, eh ben, ces lignes de nuages qui étaient initialement à 1300 mètres, c'est monté à 2000 mètres, donc déjà pas mal. Et surtout qu'au bout de ce système un peu marin, convectif marin, eh ben on a vu des cumulus beaucoup plus hauts. Et en fait, c'était la confluence, la fameuse confluence qui normalement doit démarrer de quasiment Bologne et qui doit arriver jusque là où on est arrivé. Et ben en fait, vu qu'il y avait un système frontal et des orages, eh ben cette confluence, elle n'a pu se mettre en place que 70 km au nord-ouest de Massa ou à l'est de Gênes, si on veut. Bon, toujours est-il que on arrive à passer dans ce système de confluence et là, boum, ça monte à 3400 mètres. Incroyable. D'un coup, vraiment, on passe de 2000 à 3400. Et alors là, bingo, quoi. Donc là, l'Italie, de cette partie-là, c'est gagné. On regarde de loin la plaine du Pô, on voit des nuages. Donc des cumulus, plutôt bon signe. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que ben là, on récupère quand même du vent de face. Et oui, le vent rentrait à cet endroit-là assez fort, même quasiment 50 km/h, et plein face, donc du 300. Mais ce qui d'habitude n'est pas le cas, parce que l'Italie est quand même protégée par les Alpes, sur la plaine du Pô et tout. Bon, là, il se trouve que le vent rentrait, et ça a été une progression assez difficile. Donc on a réussi à rejoindre l'ouest de Gênes en planant le long d'une espèce de confluence un peu onde. C'était pas vraiment flagrant, c'était un peu marqué avec des nuages plus bas du côté de Gênes et un peu plus haut du côté de là où on était. Donc on arrive à planer quand même pas trop mal et on rejoint l'ouest de Gênes à un petit 1500-1800 mètres où là on retrouve des nuages et on arrive à remonter, donc 2000 mètres. Et là, ben, là, il y a le dilemme des trois possibilités. Comment passer la plaine du Pô et comment rentrer dans les Alpes? Surtout qu'il est déjà un peu tard, le soleil, on est quand même fin avril, à peine fin avril, le soleil est déjà franchement à l'ouest. Donc il y a toujours la solution, passer par Turin et rentrer par le Val de Suse, ce que j'ai fait la première fois avec Gilles. Il y a la deuxième solution que j'avais faite 2 mois plus tard au mois d'août, passer par Cuneo et rentrer par le sud du Viso. J'en ai pas un super bon souvenir, j'ai quand même perdu beaucoup de temps. Et sinon, ben, y a la dernière solution, c'est vraiment prendre l'extrémité est des Alpes, là où les Alpes terminent dans la mer, au niveau de Alpenga. On est vraiment à l'est du Mercantour, et profiter de toutes les crêtes qui descendent vers la plaine du Pô, qui sont orientées, qui sont nord-sud, et donc dont les pentes sont bien orientées à l'ouest, avec bien au soleil et tout ça. Et la finalité de ça, c'était de pouvoir récupérer les Alpes au niveau du col de l'Arche et rentrer à Barcelonnette. Alors cette solution m'inspirait bien. surtout qu'on voyait quelques cumulus, alors pas beaucoup, mais il y avait un cumulus tous les 20 km, mais ça suffisait, on était à 2005, et on a réussi à faire 3000 et tout, donc petit à petit, c'était la bonne solution, de crête en crête, c'était bien alimenté, ça marchait, une bonne convection, on a pu rejoindre les pentes qui mènent au col de l'Arche, hein. Donc le col de l'Arche c'était encore assez loin, hein. L'entrée de la vallée du col de l'Arche côté italien, elle fait 40 km, quoi. Mais bon, on a pu rentrer dans cette vallée, faire des bons plafonds, petit à petit, 3400 mètres. Et là, ben, une fois qu'on a passé le col de l'Arche, ben là, on est du bon côté des Alpes, on est du bon côté de la convection, tout va bien, donc c'était super. On est rentré à plus de 3000 au col de l'Arche, avec un beau nuage sur la montagne de Siguré. Et là, ben, c'est le jardin, c'est la maison, donc là, plus d'inquiétude. Siguré, on fait 3006. Et puis ben, on connaît un peu le coin, hein. Je me suis dit que s'il y avait encore du vent d'ouest en altitude, ça pourrait donner de l'onde à Siguré. C'est ce qui s'est passé en passant en vent, on a pris un petit ressaut, c'est pas violent, mais on a fait quand même 4005. Et là, ben, 4005, c'est direct le Pic de Bure. Donc on a fait Siguré-Pic de Bure, arrivé Pic de Bure à 2003-2004, je crois. Où là, moi, j'ai pris tout de suite l'onde, je suis rentré tout de suite dans le rotor, j'ai pris tout de suite le laminaire. Thomas a mis un petit peu plus de temps, 10 minutes plus tard, il est rentré ensuite dans l'ancien laminaire. Et là, j'ai refait, moi, 4005 au Pic de Bure, il était déjà 19h, quelque chose comme ça, donc le soleil se couchant à 20h15, il fallait quand même pas traîner non plus. Surtout que, comme prévu, je l'avais abandonné, puisque mon deuxième point que j'avais mis en Italie, il était là où il y avait les orages, il était sous la pluie. Donc, j'ai pas pu faire le deuxième point, c'est dommage. Mais bon, en montant au Pic de Bure à 4005, il me restait une heure et quart de planer. Et je me suis dit que je pouvais étendre un peu vers l'ouest pour allonger le triangle et rentrer après vent arrière en profitant de la succession des ressauts pour entrer sur Flamance. Donc, c'est ce que j'ai fait, 4005 Pic de Bure. Je suis parti vers l'ouest, vers le sud du Vercors. Thomas, lui, est monté pareil au Pic de Bure à 4005 et il est rentré chez lui à Grenoble tout de suite. Donc c'est super vol aussi de Thomas. J'ai étendu un peu à l'ouest et j'ai fait demi-tour un peu au nord de Lucandiwa. Et là, j'ai mis vent arrière sur tous les reliefs qui sont à l'ouest de la baie de la Durance. Jusqu'à trouver un premier bon ressaut dans la vallée du Jabron, puis un deuxième bon ressaut sous le vent de Lure à Malfougas, bien sûr. Et là, j'ai pu rentrer à Fayence tranquillement à 20h, je supposais, à 20h30. Il reste encore un quart d'heure de vol possible. Bon, après, il faut prendre un peu de marge. Hein. Donc, posé 20h30, avec du vent encore qui soufflait, hein, sur Fayence et tout ça, c'est quand même assez rare. Hein. C'est parce que c'est le printemps, mais c'est quand même assez rare qu'il y ait quand même du vent comme ça toute la journée. Sur Fayence, en général, les systèmes de confluence se mettent en place et font que le vent il tourne sur Nice, sur Fayence, il tourne à l'est en milieu de journée. Et c'est plutôt quand on s'approche de l'été, ça, en fait, j'ai l'impression. Donc bon, je me suis posé à Fayence à 20h15 et avec un joli circuit de 1400 km en triangle FAI, en libre. Voilà.
Ok, et du coup, c'était pas réellement prévu le vol avec Thomas Puto?
Alors non, le vol avec Thomas n'était pas prévu. Il n'était pas prévu initialement. Il m'appelle la veille et il me dit, Baptiste, c'est une belle situation. Demain, est-ce que tu voles? Et je lui dis oui, moi je vole. Je vais tenter la Sardaigne. Et il me dit, ben j'aimerais bien tenter la même chose depuis Grenoble. Et donc au téléphone, on se dit, alors quelle est la meilleure solution pour toi pour que depuis Grenoble tu puisses rejoindre quand même Fayence et la Corse, parce que vent du 300, c'est quand même pas facile, les ressauts sont pas bien orientés. Donc la solution, c'était pour lui de mettre le moteur jusqu'au Pic de Bure, monter au Pic de Bure à 6000 et se laisser planer jusqu'à Fayence, où il arriverait 2 heures après mon départ de Fayence pour lui traverser vers la Corse. Donc on a prévu ça, il a prévu les contrôleurs aériens également comme moi je l'avais fait. Donc au final, on avait tous les deux le même plan de vol pour la Corse avec 2 heures d'écart. Les contrôleurs aériens ont accepté le sien avec deux heures plus tard, donc c'était super. Et ce qui n'était pas prévu non plus, c'est qu'on se retrouve quelque part au milieu du circuit. Et donc, disons que lui, comme il part 2 heures plus tard, il arrive en Corse 2 heures plus tard. En revanche, il ne peut pas arriver en Italie 2 heures plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé d'arriver en Italie à l'heure qui va bien pour la convection. Donc, dans tous les cas, il n'y aurait pas pu avoir 2 heures d'écart entre nous en Italie. Donc, il fallait quand même qu'on se retrouve quelque part ou assez proche. Et finalement, ben, on s'est retrouvé vraiment au même endroit. Alors, parce que lui, il a fait un demi-tour en Sardaigne bien avant, enfin, bien plus au nord que moi. Ce qu'il a vu, il a entendu, on s'est quand même échangé quelques messages pendant le vol, que je galérais un peu dans l'est de la Sardaigne. Donc, lui, il a préféré faire demi-tour au plus tôt, hein, ce qu'il a vraiment bien fait. Il est retourné en Corse un peu avant moi. Il était au Cap Corse 20 minutes avant moi. Et ben, il a décidé de faire un petit aller-retour d'attente sur la Corse pour pouvoir être ensemble à la traversée vers l'Italie. Donc ça c'était vraiment chouette. Donc c'était pas prévu initialement qu'on fasse le vol ensemble. Par contre, après, une fois en vol, on a fait quand même les choses pour se retrouver à deux pour la partie compliquée sur l'Italie.
Ok. Et donc, tu as parlé un peu de tes outils de préparation et du coup, je voulais en savoir un peu plus. Quels outils tu utilises pour savoir un peu la condition ?
Il y a les outils météo. Donc ça, c'est évidemment le plus important. Donc, il y a plusieurs outils météo pour savoir le vent. Donc, il y a Météo France, il y a Top Météo, il y a SkySight. Il y a plein d'outils comme ça. Tout le monde est à peu près d'accord avec le vent réel en altitude. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec le vent qu'il peut y avoir au sol. Par exemple, le vent qu'on a eu en Italie quand on est arrivé, ben ça, c'était pas vraiment prévu. Peut-être un peu plus par le modèle à Rome de Météo France. C'est compliqué sur des distances aussi longues, sur des zones aussi larges, d'avoir des prévisions qui soient vraiment très fiables. Alors, plutôt que de passer une heure sur la préparation météo et tout ça, on prend un outil. Alors nous, on a développé un outil avec Arom de Météo France, hein, qu'on peut avoir quelques heures avant. Alors, ça marche pas plusieurs jours avant, mais ça marche 24 heures avant. On a créé un outil qui nous permet d'avoir les ressauts prévus par Arom, le modèle d'Arom de Météo France, qui est un des modèles les plus précis au monde. Et surtout d'avoir le vent assez finement à tous les niveaux. Donc ça, j'utilise plutôt ça la veille du vol. Hein. Donc quand c'est 3-4 jours avant, ben, je me prépare avec des outils plus classiques de météo planeur, comme météo parapente, SkySight ou Top Météo. Hein. Par contre, quand c'est vraiment la veille et que je dois vraiment valider le circuit, valider les contrôleurs aériens, tout ça, j'utilise plutôt le modèle AROM qui est quand même plus précis. Voilà.
Ok. Et après, pour la préparation, plutôt, j'imagine que du coup, tu fais des plans de vol. Et ouais. Pareil, c'est pas trop compliqué, et même avec les contrôleurs aériens, etc.
Alors, c'est assez rigolo parce que quand je dépose des plans de vol par téléphone, et souvent quand on dit planeur, déjà, plan de vol, ben, ils n'ont pas l'habitude, hein, c'est les plans de vol Eurocontrol, enfin c'est les plans de vol, c'est le BRIA qui s'occupe des plans de vol Eurocontrol, et ils ont l'habitude des plans de vol avec des avions qui peuvent traverser l'océan et tout ça. Donc, plan de vol planeur, déjà, ils n'ont pas trop l'habitude. Alors, il était quand même hyper sympathique au téléphone. Hein. La personne que j'ai eue était très sympathique. On a pas mal discuté et puis il voulait en savoir plus un peu sur le vol parce que quand je lui ai annoncé autonomie 14 heures, il a dit « Ah ouais, vous pouvez voler 14 heures ». Et je lui ai dit « Attendez de voir la route que je vais vous donner ». Il s'est marré effectivement quand il a entendu Figari, Olbia et Bologne. Ça a été un peu drôle pour lui. Mais au contraire, c'est pas un frein, quoi. C'est plutôt sympa, c'est plutôt gentil. Et donc, le plan de vol est passé sans problème. Également, avec les contrôleurs aériens, on passe par un service qui n'est pas directement la salle de contrôle parce qu'on ne sait pas quelles équipes vont être en place ce jour-là. Mais on passe par un service qui centralise chaque secteur de contrôle, qui s'appelle le temps réel. Et du coup, on a aussi affaire à des personnes qui sont très bienveillante, qui aime un peu l'aéronautique. Et j'ai même eu un message après le vol d'une dame qui m'a dit « Écoutez, nous, on est super contents de gérer ce genre de vol. Ça nous intéresse plutôt que de gérer des avions qui font un point B. Au moins, vous, c'est original et on vous aide pour faire ça. » Donc, c'est très bienveillant. Donc, voilà, il n'y a pas de... Au contraire, maintenant, il n'y a plus de freins, ils ont l'habitude de nous. on fait les choses de façon carrée, on fait toujours des comptes rendus, surtout c'est très important, on fait des comptes rendus des vols aux contrôleurs aériens, comme ça nous on a un retour, on sait ce qu'on peut améliorer et eux ils savent également ce qu'ils peuvent changer pour nous faciliter le vol. Donc c'est plutôt bien, hein. Et même avec les Italiens ça s'est très bien passé, on a pu avoir le contact du temps réel de Rome également, qui nous a félicité pour notre vol après coup, donc c'est vraiment très sympa et c'est vraiment une super aide pour la préparation de nos vols.
Ok. Et justement, du coup, rester 14 heures dans un planeur, bah, comment tu fais pour rester aussi longtemps en l'air ?
Ah ben, j'ai l'habitude. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. C'est les vols de 10 heures, voilà, ça fait plus de 10 ans que j'en fais et j'en fais des dizaines par an. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut supporter un vol de 14 heures. C'est pas d'un coup, on se dit, tiens, j'ai jamais volé plus de 3 heures, mais demain, je vais voler 14 heures. Ça marche pas, ça peut pas. Donc, c'est petit à petit. Alors, au début, les vols de 8 heures, bah, ça fait long. Les vols de 10 heures, ça fait long, ça pique un peu. Bah, on trouve ses marques, on trouve ses aises, on trouve la bonne position, on trouve le bon équipement, on trouve le bon parachute, on trouve les bons coussins. La bonne nourriture pour manger à tel moment, la bonne boisson, la bonne forme de bouteille. En fait, tout ça, ce sont des détails, si tu veux. Mais quand tu as une micro chose qui te gêne au départ du vol, ben, au bout de 14 heures, ça va devenir une énorme chose. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit point, un petit truc qui est dur sur le parachute et tout. Quand tu t'installes dans le planeur, tu es tout excité de partir sur un super vol comme ça, tu penses pas vraiment à tout ça. Et tu dis, ouais, ça va, je suis pas trop mal installé, c'est bon, je ferme la verrière et je décolle. Mais en fait, ce pas trop mal installé, au bout de 10 heures, ça devient un enfer. Et donc, t'es obligé d'être en fait parfaitement installé quand tu au moment du décollage. Et pour être parfaitement installé, eh ben, il faut l'avoir fait des dizaines de fois, et il faut être sûr de ce qu'on prend, sûr de sa position, sûr de la façon dont on met les choses à notre la disposition des choses autour de nous, c'est hyper important. Donc c'est voilà, tout ça fait que ben, petit à petit, tu passes de 18h à 10h, à 11h, à 12h, à 13h, à 15h, à 15h comme l'année dernière. Puis ben, après, ça n'en finit plus. Hein. Après, tu fais 15h, tu fais 16h, tu fais 17h. C'est comme ça, mais c'est tout ça, c'est hyper important. C'est vraiment des détails, mais qui, les uns avec les autres, ont toute leur importance.
Ok. Et du coup, comment tu as pu faire pour tout le temps justement repousser ces limites ?
Ah ben, y a la... Alors, c'est des limites... oui, c'est des limites géographiques, on va dire. Parce que c'est pas des limites du dépassement de la performance comme un coureur de fond, comme quand il fait de l'athlétisme, où il va chercher toujours un peu plus de force, un peu plus de... On parle plutôt de force mentale, là. C'est-à-dire que, ben oui, j'ai fait la Corse une fois, ça aurait pu me suffire, et ben non, je suis quelqu'un peut-être éternellement insatisfait, on ne sait pas si les psychologues peuvent se pencher là-dessus, mais c'est pas éternellement insatisfait, c'est éternellement soif de découverte, quoi, et de nouvelles choses, et de se dire, ben finalement, si la Corse ça marche, ben la Sardaigne ça doit marcher aussi, et puis ben. Ma prochaine limite, ce sera ben, le sud de la Sardaigne, puisque si le milieu de la Sardaigne, ça marche, le sud de la Sardaigne, ça doit marcher aussi. Et donc, c'est comme ça, c'est l'envie d'aller voir, et l'envie d'essayer des nouvelles choses, quoi. Et puis, ben, bon, j'ai surtout un peu le temps de le faire, évidemment, et j'ai surtout une grosse volonté de le faire, quoi. Donc, c'est surtout ça, c'est surtout une grosse volonté de pouvoir le faire. Et se dire que finalement, si ça marche pas ou s'il faut se poser quelque part et tout, c'est pas grave, quoi. Il faut quand même, voilà, ce qui est aussi important, c'est dédramatiser l'échec, on va dire. Ça, c'est important. Mais bon, ça, c'est, je pense que c'est des méthodes de sportifs, d'entraînement de sportifs. Ça, tous les sportifs échouent à un moment donné. Moi, j'ai beaucoup échoué aussi, même en planeur, sur les championnats internationaux et tout ça. Bon, ben, c'est pas grave. Hein, on retrouve la force mentale et les ressources mentales là-dedans pour aller chercher des succès futurs. Et donc c'est comme ça, quoi. Et c'est à force d'essayer, c'est à force d'entraînement que ben, les choses finissent par ça finit par passer, en fait. Et on finit par trouver la belle journée, la belle météo qui fait que c'est passé. Quand je regarde la météo du 25 avril, honnêtement, c'est pas une belle météo. Certes, il y a le vent, mais un, il est beaucoup trop fort, et deux, l'Italie est vraiment pas bonne. Donc au final, tu vois, tout ça, je me dis que ben, c'est une météo moyenne, enfin moyenne, c'est une bonne météo, enfin c'est une très belle météo pour faire un très beau vol, mais dans ce très, pour ce très beau vol-là, ça reste une météo qui est moyenne. Et ben une météo moyenne, une journée 25 avril ou par rapport au solstice, il reste encore 2 mois, c'est-à-dire que tu peux avoir 1h30, voire 2 heures de vol de plus au mois de juin, tu vois. Mmh. Donc météo moyenne avec 2 heures de vol possible, éventuellement un jour, et ben t'as envie de la repousser cette limite. Tu te dis je fais 1400 bornes en triangle avec ces conditions-là, et ben un jour c'est sûr ce sera pas tous les ans, pas tous les jours, mais c'est sûr qu'un jour c'est possible, ce sera possible de faire plus. Et donc ben, cette envie de faire plus, ces calculs ben, fait que ouais, j'ai envie d'y aller, quoi. C'est une volonté super forte.
Ok, et du coup, c'est quoi tes prochains objectifs ?
Ben là, sur ce trajet, le trajet-là, ben, j'en ai parlé, hein, un peu plus loin en Sardaigne ou un peu plus loin en Italie, comme j'ai fait Pavoulos, qu'on l'a fait 2 fois, ça a très bien marché. Peut-être un peu plus loin à l'ouest, Aubenasson et tout ça. Si on cumule les trois, on peut arriver à faire des triangles de 1600, voire plus de 1000 kilomètres. Donc voilà, ça c'est l'objectif principal pour cette route-là, en tout cas.
Ok, et plus largement pour cette saison-là, t'en as d'autres ?
Alors, pour cette saison, chaque saison est différente, hein. Là, malheureusement cette année, il fait pas hyper beau. Alors j'ai quand même pas trop mal volé dans les Alpes, j'ai eu de la chance d'avoir ces journées-là de belles dondes et de beaux vols quand même. Là tu vois, on est le 12 mai jusqu'à la fin du mois de mai, il n'est pas prévu de situation frontale et d'onde. Donc après, on verra. Hein. Donc, on ne peut pas dire cette saison je vais faire ça, cette saison je vais faire ça, parce que bah, on est tellement tributaire de la météo que c'est pas possible. Par contre, dans les 3-4 prochaines années, oui, j'ai ces projets-là. Dans les 3-4 prochaines années, en fait, il faut toujours regarder à 3-4 ans en avance, quoi, 3-4 saisons en avance. C'est tellement spécifique les météos dont on a besoin, si tu veux, que il y a toujours peu de chances pour que ça arrive plusieurs fois dans la même saison.
Ok. Et dernière question, est-ce que tu aurais du coup des conseils pour un pilote qui voudrait se lancer du coup dans les vols de distance ?
Alors ben, les vols de distance, des conseils, l'entraînement. Déjà, c'est la base, c'est la base numéro un. C'est il faut s'entraîner, il faut travailler, il faut voler tous les jours où on peut voler, et pas forcément choisir que les meilleures journées, celles qui apparaissent, en tout cas en tant que tel. Voilà, il faut s'entraîner à voler par tout temps, par toutes conditions. Il faut s'entraîner à voler longtemps, il faut s'entraîner à voler avec le bon équipement, il faut trouver le bon équipement. Hein, parce que quand on passe du chaud au froid, au chaud, et ben on ne sait toujours pas bien comment s'équiper. Il n'y a que le fait de le faire et de voir par soi-même qui va jouer sur ce dont tu vas avoir besoin. Il y a des gens qui sont plus ou moins frileux. Moi, je sais que je suis très frileux des mains et des pieds. Et ben, je m'équipe en conséquence, mais il y a des gens qui ne craignent pas du tout ça. Donc voilà. Donc tout ça, ça fait que les conseils que j'ai à donner à des gens qui veulent faire des grands vols, c'est surtout ça. C'est surtout voler souvent, dès que vous pouvez, voler par tout type de conditions, hein, sauf s'il y a des gros orages et qu'il pleut, bien sûr, mais bon, dès que c'est volable, il faut voler, et surtout bien connaître sa position dans son planeur, bien connaître son équipement, bien connaître ses besoins, bien préparer son matériel, comme l'oxygène par exemple, si c'est un planeur autonome, son moteur ou des choses comme ça, tu vois. Voilà. Il faut que tout ça, ça ne soit pas du... Il faut que quand on parte sur ce genre de vol, tout soit prêt et on n'ait plus aucune considération technique, plus aucun doute sur la technique et sur l'équipement. Voilà, il faut qu'on soit concentré à 100% sur le vol. C'est un peu comme en compétition, finalement. C'est un peu pareil, quoi. Hein, quand on part pour une épreuve en championnat, bah, tout est prêt, quoi. Il n'y a plus aucun doute. On est concentré que sur son épreuve. Et ben là, c'est pareil. On est concentré que sur son vol. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Mais ça demande de l'entraînement. Et ça, l'entraînement, c'est vraiment le seul conseil que je donne, c'est s'entraîner, 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 s'entraîner. Tout le temps. Il n'y a pas de secret.
Ok. J'ai terminé, j'ai plus de questions à me poser.
Et bien, super.
Et bien, merci beaucoup d'avoir répondu du coup à mes questions.
Ben, avec plaisir.
Et je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
Et ben, toi également. À bientôt.
À bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. On vous retrouve bientôt pour l'épisode numéro 2. À bientôt. Au revoir.